Chers amis, bonjour, merci de nous écouter sur le 90.7 RCN, Radio Caraïbes Nancy, ou le www.rcn-radio.org sur Internet, parce qu'on nous écoute aussi beaucoup, beaucoup sur Internet et ça nous fait plaisir. Marc Page aujourd'hui, Marc Page est consacré à un écrivain, moi que j'apprécie, que j'ai appris à aimer au travers de ses différents romans, et qui est aussi un monsieur extraordinaire. C'est un scientifique. Alors, c'est un de nos grands spécialistes français de mathématiques, des nombres premiers, etc. Je vais pas trop m'aventurer sur ce terrain-là, parce que là, je vais me perdre très 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 vite. Je veux parler de Gérald Tenenbaum. Bonjour Gérald.
Bonjour.
Merci de venir nous rencontrer, nous parler de votre dernier livre, L'affinité des traces, et puis on parlera aussi de ceux qui sont toujours à lire, hein, pour ceux qui ne les ont pas lus, ceux qui ont précédé, mais surtout pour parler de l'affinité des traces. Alors, ce livre, et pour parler de ce livre, alors, que je n'oublie pas, je ne suis pas tout seul, parce que j'ai besoin de renfort, et il y a notre amie Fanny Latache, qui est une journaliste en devenir.
Bonjour.
Hein, en éclosion.
C'est le printemps.
Voilà, c'est une journaliste, future journaliste, qui va m'aider à aller un petit peu plus loin dans les secrets de Gérald Tenenbaum. Et puis, vous la connaissez, c'est notre chroniqueuse habituelle, et puis celle qui aussi a la lourde tâche de lire des pages des romans des invités.
C'est une Christine. Tâche légère.
Une légère.
Ah alors, oui, agréable.
Là, tu vas voir. Là. Christine Lénager. Gérald, merci donc de prendre sur votre temps, parce que je sais que vous êtes très très pris.
C'est un plaisir. Métier. C'est un plaisir de vous rencontrer, d'être parmi vous.
Je sais, vous m'avez venu me dire hier, vous étiez dans les griffes de cette chère Élise Fischer, qui a une très très belle émission sur RCF, oui, qui s'appelle Au fil des pages. Et je sais que c'est toujours de très très bonnes émissions. C'est toujours un plaisir d'être avec elle. Aujourd'hui, vous êtes avec nous. L'affinité des traces. Alors, ce titre est un peu abscon. Enfin, l'affinité des traces, c'est presque philosophique. Et dans l'affinité des traces, on va s'attacher à suivre une femme extraordinaire, Edith. Vous aimez les beaux personnages comme ça. On avait connu ça déjà dans Le Souffle Coupé. On avait connu également dans
L'Ordre
des Jours, oui, qui a vu le prix Herman Chatrian, Solange. Ce sont toujours des personnages extraordinairement forts, beaux, attachants. Mais cette fois-ci, contrairement aux deux précédents romans, nous n'avons pas affaire à des destins qui se croisent ou des choses qui font référence au passé, mais c'est le destin presque linéaire, presque inexorable, et le choix d'une femme que vous suivez du début jusqu'à la fin.
Oui, que je suis pendant toute son existence, une femme qui n'a pas reçu les bonnes cartes dans sa vie, qui ses parents ont été arrachés très jeunes, qui est une victime une victime collatérale de la déportation, puisque sa mère a été déportée, et puis elle a un destin qu'on voudrait lui tracer, mais non, elle décide, elle, de le tracer, de le dessiner, de dessiner sa trace sur le monde et d'aller voir d'autres horizons.
Mmh. Alors, Edith, ça commence mal, hein, vous l'avez dit, pour elle. Donc, elle est née juste tout début de la guerre.
Un petit peu avant, mais oui. Elle a perdu très très
tôt. Elle est ballottée.
Elle est ballottée de famille en famille, de famille d'accueil en famille d'accueil, de parents de substitution en parents de substitution. Elle a comme je l'ai connue, je dirais, elle a appelé 3, 4, 5 personnes papa et maman dans sa vie. Elle commence à construire quand on ne peut pas comme ça s'appuyer sur une relation maternelle ou une relation paternelle. Et elle les appelle des papes et des mames parce qu'il leur manque quelque chose.
Mamzoli,
voilà. Et donc elle est oui, quelqu'un m'a dit voilà, c'est un personnage en mal de mer, mais voilà, elle est en mal de mer, et puis elle est empreinte d'une tristesse qui résonne en elle à la faveur de la chanson de Juliette Gréco qui reprend qui dans le film d'Otto Preminger sur le livre de François Sagan, qui reprend Bonjour tristesse, et elle l'écoute en boucle sur son 45 tours, elle écoute en boucle cette chanson et qui résonne parce que elle, sa vie, alors qu'elle est toute jeune, alors qu'elle commence seulement sa vie, eh bien, elle est déjà baignée dans la tristesse.
Alors, on la retrouve dans les années 60. Les années 60, et là, elle est à Nancy, le hasard de la vie fait qu'elle vient à Nancy, elle habite rue des Jardiniers, à Nancy, et puis on veut la marier, on veut un peu forcer son destin, parce que elle veut par contre pouvoir dominer sa vie et puis pouvoir faire tout ce qu'elle veut de sa vie.
Voilà, c'est ça. Oui. Elle refuse. On lui dit voilà, le rabbin veut te oui. voir. Bon, c'est une orpheline. Il faut bien faire quelque chose. Donc à l'époque, on arrangeait quand même souvent les mariages, et donc on lui dit écoute, voilà, si t'as envie de fonder une famille juive, il y a un très gentil garçon là qui est là et qui vient d'Oran et qui et puis on pourrait arranger ça, etc. Et là elle voit cet horizon bouché, elle le refuse, et de tout son être elle le refuse, et elle décide de fuir et d'avancer.
Et là, l'histoire, je vais dire la petite histoire, non, l'histoire d'Edith va rejoindre la grande histoire, celle qu'on connaît encore pas trop bien. On en parlait un petit peu en micro avant, cette histoire qui est encore un peu, même beaucoup cachée, parce que elle est tellement encore présente, et il y a encore beaucoup de témoins, mais c'est l'histoire, eh bien, de l'Algérie, l'histoire de la fin de la colonisation. On va d'ailleurs assister au référendum de 58 ou 59 sur l'autodétermination, etc., etc. Quoi. Donc on rejoint la grande histoire, ne serait-ce que parce que Edith, bon, postule un jour pour un poste d'auxiliaire
de sténodactylo. Armées. Voilà, elle a fait des études de sténodactylo
chez Pigier.
voilà, chez Pigier à Nancy. Et puis un jour, un ami lui dit écoute, il y a un concours de l'armée là, tu devrais te présenter. Il cherche des sténodactylos. Alors elle dit mais pourquoi moi, pourquoi je ferais ça? Il dit je sais pas, ça te permettrait de voir d'autres horizons. Et ce mot d'horizon, il résonne en elle. C'est un déclic, et elle y va.
Elle quitte déjà, c'est déjà une coupure. Hein.
Ah oui, c'est déjà, c'est le premier pas. Voilà, ouais. C'est le premier pas vers une aventure. Elle sait pas très bien où elle va, elle sait pas très bien pourquoi, elle sait pas si elle va revenir, pas revenir. Ce qu'elle sait, c'est que elle a envie de conduire sa propre vie, même si elle va dans le mur, mais au moins c'est elle qui prend le volant. Voilà.
Et elle part, elle est affectée. Au fin fond du Sahara.
Au fin fond du Sahara, à Inéker, donc qui est le deuxième endroit où la France a procédé à des essais nucléaires. Il y a eu les essais aériens à Reagan, dont on a pas mal parlé. Et puis ensuite, il y a eu une deuxième vague d'essais qui ont été des essais souterrains à Inéker. Elle se retrouve sur cette base militaire au milieu du Sahara, dans le grand sud algérien. Quasiment seule femme auprès de 2000 ou 3000 hommes.
Et là, il y a des descriptions absolument magnifiques du désert, des couchers de soleil, enfin de cette nature absolument grandiose. Et vous la connaissez, cette nature saharienne?
Je ne la connais pas de visu, je n'y ai pas été, mais j'ai travaillé ma documentation pendant plus de 18 mois. Avant d'écrire la première ligne du roman, je suis vraiment resté dans la documentation. J'avais le choix, j'aurais pu faire un petit voyage. Bon, compte tenu de mes activités, j'aurais pas pu y rester très longtemps. Et puis finalement, je me suis dit que c'était peut-être mieux de préserver mon imaginaire, et tout en l'étayant avec une documentation extrêmement serrée. C'est la liberté de l'écrivain. Alors peut-être que mon désert n'est pas exactement parfaitement comme pour ceux qui l'ont été, mais après tout.
Bon, mais c'est le vôtre.
Voilà, c'est le vôtre.
C'est celui que vous fantasmez,
c'est ça que finalement, je veux dire, le travail de l'écriture, genre aujourd'hui on voudrait que si on décrit un crime, il faudrait que l'auteur soit un criminel ou un policier. Ben non, on n'a pas demandé à Jules Verne s'il avait été sur la lune, et pourtant son voyage à 20 milieux sous les mers. Et c'est vrai que l'imaginaire est quelquefois, peut avoir peut-être une force, justement, si on le préserve, peut avoir une force très intéressante aussi en matière littéraire.
Alors, Edith, si on se contentait de la voir se retrouver aux confins du Sahara, là-bas, et puis participer, ou du moins être une actrice très involontaire et puis éloignée, parce qu'elle tape des rapports, en fait.
Hein. Oui.
Elle n'a pas d'action, proprement dite, dans ses essais nucléaires. Mais si on s'arrêtait là, ce serait un beau petit roman de gare, quoi, hein, un petit roman d'amour, même à la rigueur, on pourrait trouver.
Oui, bien sûr.
Mais là où le roman prend toute sa force, c'est qu'il y a la rencontre de ce peuple absolument extraordinaire, du peuple Touareg.
Oui, elle est là sur cette jeune fille qui a mis un petit peu sa féminité entre parenthèses compte tenu de la situation, qui vit avec l'absence, avec la perte de ses parents, avec le manque permanent de sa mère, et puis elle va rencontrer des gens qui sont là tout à fait par hasard, des Touareg, une princesse Touareg et un dignitaire qui est son mari, qui est là pour se faire soigner d'un paludisme extrêmement grave. Et cette princesse, elle a tout de suite une noblesse. Il y a quelque chose qui se passe entre elles deux. Il y a un déclic. Et elles vont l'une vers l'autre, alors qu'elles sont tellement éloignées. Tout de même, elles parlent quand même la même langue, parce que beaucoup de Touareg parlent très bien le français. Donc elles parlent la même langue, donc elles ont de quoi communiquer, mais elles sont issues de cultures complètement différentes. Et pourtant, voilà, des convergences vont se faire jour, des affinités, puisque c'est le mot du titre. Et c'est une rencontre qui est au-delà des conventions, au-delà de tout ce qu'on pourrait attendre, tout ce qu'on pourrait imaginer. C'est la liberté des êtres humains.
Et là, Edith va user de cette liberté à choisir son destin en toute connaissance de cause, d'ailleurs. Hein. Et on ne va pas trop révéler le roman, parce qu'il y a des choses qu'il faut découvrir. Hein. C'est pas la peine de donner les clés avant. Non. Mais elle va choisir un destin qui va l'amener à mieux connaître et partager, quoi. Et puis qui va l'amener dans une réalité qui nous rejoint aujourd'hui.
Oui, qui nous rejoint.
Qui est cruellement actuelle même.
Incroyable. C'est vrai que quand j'ai écrit le roman, j'avais aucune idée du fait qu'il serait à ce point rattrapé par l'actualité. Mais c'est vrai que le peuple Touareg, un peuple en diaspora, un peuple dispersé sur plusieurs pays, un peuple qui a été nié, qui a été humilié, qui a été victime d'agressions et qui s'est révolté plusieurs fois depuis les années 60, et même avant. Et aujourd'hui, on assiste, c'est vrai, encore à une révolte Touareg qui a pris une ampleur, l'ampleur que l'on sait. Puis il y a aussi des résonances avec Fukushima, les essais nucléaires, cette science qui croit tout maîtriser et qui finalement se révèle beaucoup plus fragile qu'on ne peut l'imaginer. Et donc tout ça fait qu'effectivement ce livre se retrouve par les hasards de l'actualité tout à fait en phase avec le temps présent, alors que au départ je l'avais écrit disons bien sûr avec des préoccupations philosophiques ou sociologiques sur lesquelles on reviendra peut-être tout à l'heure, mais je ne pensais pas qu'il serait rattrapé comme ça par l'actualité exactement au moment de sa sortie.
Exactement, oui, tout à fait. J'aimerais que Christine nous lise, si vous voulez bien, le premier chapitre. Peut-être pas en entier, mais l'ouverture, si je puis dire, de ce roman. Et on plonge tout de suite dans l'univers que l'on connaît aujourd'hui. Christine.
Le feu crépite, mais ne luit plus pour personne. Dans la nuit saharienne, si scintillante qu'aucune ombre n'y trouverait place, la masse sombre de la falaise du Kawar éteint l'improbable halo d'une obscurité magnétique. Indifférent aux âmes humaines, tourment, espoir et tourment de l'espoir lui-même, le désert pèse son impassible sommeil. Amarré à l'opacité du ciel, il dort. Le campement ayant quelque temps abrité Taliat et la parenté de Taliat n'est plus que l'empreinte du ravage, la flétrissure de la terre, honni soit l'homme qui l'a décidé, vomi soit ceux qui l'ont perpétré. Jusqu'au jour qui vient d'expirer, les tentes touaregs piquées en bois de Tegart, piliers fragiles et millénaires, vélum de peau ou d'afaso, toit des hommes en miroir du toit du monde, exhalaient l'odeur du thé, la fermeté du foyer. Elle renvoyait en écho le cri du verre sur le pain de sucre à l'instant de l'ébullition. Elles enveloppaient les rires des enfants attendant le quatrième thé à Gamar. Jusqu'à la nuit qui vient de s'abattre. Le sable est pris de la moindre goutte de liquide abandonnée par le ciel ou offerte par les hommes. Le sable crissait la soif. Mais les tentes, à présent, laissent battre au vent leurs nattes déchirées. Sous les dais frissonnants, parmi tous ces objets désormais sans objet, les éclaboussures cramoisies ont aveulé, çà et là, les théières éventrées. Le temps du partage est révolu. Les couleurs de l'émail ternies, jaune souillé sans appel, rouge suintant, odorant comme une plaie ouverte. Vert impuissant. L'indigo, le noble indigo, est flétri. L'émail est bleu en vain. Et vains sont les petits vers cannelés, à jamais inutiles, fichés dans la poussière. Le sable est figé, grumeleux, désaltéré de toutes ces humeurs qu'un corps supplicié abandonne avant de renoncer. Sans vie, la parenté gît. À Falavas, le forgeron à l'œil souriant et à la langue moqueuse, l'énade aux mille sabres précieux est couchée sur le flanc, main agrippée au vide, jugulaire tranchée par une lame vulgaire. Il est étendu, gorge déployée, lui qui a forgé tant de nobles épées, fille de ces tits guéennes façonnées par le Créateur dans le même temps qu'il a créé le monde, et que sous la tente, nous nous transmettons d'oncle à neveu, du fils de la mère au fils de la sœur. Les hommes d'Abou Azam parlent tout bas, même ces hommes-là, quand la nuit épaissit le sang et l'odeur du sang séché. En cercle paisible, combattants de la Katiba, ils sont assis. Autour du feu moribond qui fait vaciller les ombres, ils laissent choir leurs paroles, comme si les gorges se nouaient à l'insu des âmes, et les mots sans rien dire se chargeaient du poids des actes.
Merci. On a l'impression d'une fin, quelque chose enfin, qui s'écroule. Hein. C'est une fin de monde, une fin de quelque chose. Et c'est ensuite tout l'itinéraire d'Edith qui va nous amener justement à comprendre cette fin qui est annoncée comme ça dès le début.
Oui, le livre est tendu comme un hamac entre les deux chapitres extrêmes, ce premier chapitre dont vous avez lu fort bien le début, et qui est un chapitre sans aucun mouvement, puisque les corps sont sans vie et aucun mouvement ne vient troubler cette nuit du désert. Et le dernier chapitre, dont je dirais seulement qu'il est sans aucune parole, les seules paroles qui seront échangées seront écrites sur le sable, dans la langue tamachèque. Et entre ces deux chapitres extrêmes, eh bien, tout le destin de cette femme va être décrit sur plus d'une cinquantaine d'années. Et on comprendra comment on va de l'un à l'autre, et on suivra avec elle, on suivra son chemin et ses traces, bien sûr.
Alors, s'il n'y avait eu que Edith, la rencontre, son travail qu'elle faisait là-bas aux confins du Sahara, et la rencontre avec cette princesse et cet Aménocal, parce que la personne qui est souffrante était Aménocal, c'est-à-dire le personnage le plus important des familles, enfin de l'ensemble de la communauté Touareg. S'il n'y avait que cette rencontre, bon, ça serait très beau, mais il y a en plus un événement majeur qui va se passer, qui va être un événement choc pour Edith, qui en a déjà eu pas mal. C'est lors des essais nucléaires, un accident, comme il y en a eu beaucoup, et qu'on cache encore aujourd'hui, je crois.
Oui, qu'on cache.
C'est un incident réel. Vous partez d'un fait tout à fait réel.
L'accident du tir Beryl du 1er mai 1962, qui était un tir souterrain qui a été mal calculé. La puissance du tir nucléaire était beaucoup plus importante que prévu. Les éléments qui avaient été prévus pour contenir ce tir ont tous cédé. Et la montagne a explosé. Et d'ailleurs, bon, il y avait deux ministres qui étaient présents qui étaient présents à ce moment-là, donc pour observer le tir, qui était Gaston Palevski et Pierre Mesmer. Gaston Palevski est mort d'un cancer. Quelques années plus tard, il a toujours été persuadé que c'est à cet endroit-là qu'il avait contracté cette maladie. Donc cet accident a été un peu occulté, parce que les militaires, militaires du contingent, et militaires de carrière, qui étaient sur les lieux, n'ont pas été protégés, évidemment, comme il le fallait. Les populations locales, encore moins, et des demandes de réparation ont été faites, il y a eu des rapports du Sénat, enfin, il y a eu beaucoup d'éléments historiques, beaucoup de développement à la suite de cette histoire, et j'ai rencontré des personnes qui luttent encore aujourd'hui pour faire reconnaître le préjudice.
Et 50 ans plus tard, tout n'a pas été dévoilé, tout n'a pas été rendu public, je crois.
Bien sûr, les retombées radioactives, elles mettent beaucoup plus que 50 ans pour disparaître. Et c'est vrai que du point de vue politique, il faut savoir que les essais nucléaires étaient un point extrêmement crucial de la négociation d'Évian, qui a abouti aux accords d'Évian, donc dont on a célébré le cinquantenaire, il y a quelques semaines. Et c'est vrai que la France voulait absolument obtenir de l'Algérie, qui allait devenir indépendante, la possibilité de continuer des essais nucléaires sur son sol. Donc il s'agissait qu'une puissance qui deviendrait une puissance étrangère puisse poursuivre des essais militaires sur le sol d'une nation souveraine. C'était quand même quelque chose de pas évident. Ça a été effectivement effectivement obtenu, et la France a continué ses essais pendant encore 5 ans.
5 ans, oui, tout à fait, jusqu'en 67, oui, c'est ça. Hein,
je exactement. Crois. Oui.
C'est, et ça, c'est, aujourd'hui, ça paraît absolument improbable.
Comme, oui, ça paraît comme surréaliste.
Comment
quelque chose de cette ampleur a pu être négocié, mais c'est le fait, et donc, bon, et puis, bien sûr, de toute façon, il y a toujours eu beaucoup d'occultations, bon, par nature même, donc sur les essais nucléaires, mais oui, toutes les conséquences n'ont pas été dévoilées, tous les préjudices n'ont pas été reconnus, et ça reste encore aujourd'hui un point sur lequel, bon, il y a des rapports politiques, et tout n'est pas clair.
On fait un peu une pause musicale, histoire de reprendre son souffle, et puis pour permettre à Christine, tiens, de préparer une prochaine lecture, peut-être. Je vous propose d'écouter, alors, je pense que vous aimez Jean-Sébastien Bach, hein, vous aimez Bach,
oui,
hein,
bien sûr.
Je crois. Hein. c'est un extrait du concerto pour violon et hautbois. On va laisser un tout petit peu Bach, comme ça, en fond sonore. Alors, hors antenne, je discutais un petit peu de musique avec Gérald Tenenbaum. Et puis, j'avais la première lettre. Hein. c'est Brahms que vous aimez surtout.
Oui.
Un romantique. Vous êtes romantique?
Ah oui, je suis résolument romantique. Et je suis, je plaide pour des valeurs humanistes.
Oui.
Je trouve que beaucoup de la littérature, de l'art aujourd'hui est dans le dénigrement, dans la dérision. Mm. Les gens sont plus prompts à détruire qu'à construire. Et moi, dans ma littérature, j'essaye de développer des valeurs positives. Tant pis si ça fait sourire, tant pis si les gens se moquent, mais je prends mes responsabilités, je prends mes risques, mmh. et je préfère montrer des personnages qui sont emblématiques et qui vivent selon les valeurs que je préfère, plutôt que de me cantonner dans une position finalement confortable qui est la dérision.
Mmh, tout à fait. Et puis, j'ajouterais que dans ce roman, qui est un roman humaniste, on a des gens qui sont de confessions culturelles différentes. Oui. Jamais ça fait problème. Parce que c'est peut-être des religions qui viennent peut-être de la même souche, du même livre originel. Mais malgré tout, il n'y a pas de conflit.
Non, il n'y a pas de conflit. C'est vrai que on peut finalement la religion, c'est aussi une manière de croire à quelque chose, croire en l'être humain. Et oui. quand on partage ces valeurs-là, qu'on appelle son Dieu ou ses valeurs d'une manière ou d'une autre, oui. C'est pas ça qui est important. L'important, c'est les gens qu'on rencontre, c'est le courant qui peut passer oui. d'un être à l'autre. Et c'est ça dont j'ai envie de parler. C'est en cela que je veux croire. Et donc, oui, en tout cas, dans mes romans, il n'y a pas de guerre de religion.
Non, ça, c'est un fait qu'il faut remarquer. Alors, notre ami journaliste, j'ai dit tout à l'heure, journaliste en devenir, en éclosion, ça sera une excellente journaliste. Fanny Latache a préparé quelques questions. Alors,
justement, allez. Vous parliez de romantisme. Et au regard du premier chapitre qu'on a lu, on voit qu'il y a aussi un romantisme par le paysage, la nature et celle que vous décrivez, qui est le désert. Et c'est aussi l'homme face à son destin. Et j'ai l'impression que votre personnage, et vous allez me dire si je me trompe, mais cette Edith, elle est, au fil des pages, elle prend conscience d'elle-même. Et c'est une sorte de parcours initiatique, mais tardif. Qu'elle n'a pas pu faire avant parce qu'elle était trop pressée, trop ligotée, comme on a dit, oui, et qui tout d'un coup se réveille. Et c'est vrai que c'est assez original dans le sens où d'habitude, initiatique, on pense à jeunesse. Et là, j'ai l'impression que c'est plus tardif.
Oui, c'est tout à fait juste. Votre interprétation est tout à fait juste. Edith a eu une enfance brisée. Une enfance qui ne lui a pas permis d'accéder à l'autonomie comme toute enfance normale. L'éducation, c'est l'apprentissage de l'autonomie. Mais comment apprendre l'autonomie quand les parents vous manquent, quand l'essentiel vous manque? Donc elle prend conscience petit à petit, et puis elle a son caractère, elle a sa vitalité qui la conduit à l'insu d'elle-même. Elle commence par prendre conscience de sa tristesse avec cette chanson qui la berce. Et puis, elle prend aussi conscience de ce qu'elle refuse. Il est quelquefois plus facile dans la vie de savoir ce qu'on ne veut pas plutôt que de savoir ce qu'on veut. Savoir ce qu'on veut, c'est quelque chose de difficile, mais savoir ce qu'on ne veut pas, savoir les choses qui vous disent non, non, moi j'entrerai pas là, moi je ne ferai pas ça.
Et donc elle apprend à choisir.
Voilà, elle apprend à choisir. Donc c'est des choix qui sont négatifs, par la négative au départ, et qui deviennent des choix affirmés et des choix positifs au fur et à mesure de son existence. Alors oui, c'est un personnage qui conduit son destin. Moi, j'aime bien les personnages qui s'en sortent, les personnages qui ont reçu des blessures, parce qu'on a tous reçu des blessures, mais qui, à un moment donné, vont les surmonter et trouvent des ressources quelquefois extraordinaires, insoupçonnées, pour surmonter ces blessures.
D'ailleurs, elle n'hésite pas. Elle va changer de nom.
Oui.
Et d'ailleurs, Christine va nous lire ce passage au moment où elle reçoit presque en cadeau ce nouveau nom.
Le lendemain, Edith a reçu plusieurs visites. Chacun voulait converser avec elle, lui offrir de petits présents, pièces d'étoffe, clés de voile, étui à coule, pince à écharde, et lui posait des questions sur ses parents, sa famille, les gens de son pays. On a demandé à Afalavas de laisser sa forge un instant pour traduire. Cablo aussi est venu, très fier de son nouveau rôle. Lorsqu'il lui adressait la parole, les interlocuteurs d'Edith ne prononçaient jamais son nom. À la place, c'est le vocable Taliat qui revenait systématiquement. Au début, elle a pensé qu'il s'agissait d'un nom générique pour désigner les étrangers, leur souhaiter la bienvenue ou la bonne journée. Ensuite, sollicitée comme elle était, elle n'y a plus prêté attention. Lors du repas de la mi-journée, pétrissant la pâte de mil avec Mariama, elle a posé la question. « Mariama, que signifie Taliat ?»« C'est ton nom. »« Pardon ?»« C'est le nom que tu t'es toi-même donné. »« Mais quand cela ?» Hier, quand tu as refusé d'être une invitée, tu as dit que tu voulais être comme nous. Le bruit s'est répandu, tous l'ont entendu. Que signifie Taliat, Mariama? Taliat, celle qui est comme. Tu es Taliat parmi nous.
Celle qui est comme nous. C'est le cadeau, quoi, pour elle.
Oui, oui, c'est le cadeau. Et c'était, je cherchais le nom Touareg d'Edith, et je suis tombé sur ce nom extraordinaire. Je ne sais pas s'il existe un tel nom dans une autre langue. En tout cas, en Tamashek, eh bien, il y a un nom qui s'appelle, un nom de femme qui s'appelle Comme. Voilà, oui. Être Comme.
Être Comme, c'est merveilleux. Vous avez approché cette culture Touareg. Alors, faut rappeler que les Touareg, c'est une nation, parce qu'ils ont, leur culture, ce sont des familles, des parentés, comme vous dites dans le roman, et, qui ont des règles millénaires, qui sont des pasteurs, et qui suivent les saisons, etc. Et ils vivent sur au moins cinq pays.
Sur cinq pays.
Cinq pays. Il y a la Mauritanie, le Mali, l'Algérie, le Niger,
la Libye,
oui. Et, le destin de l'histoire et de l'histoire contemporaine a fait qu'on a tracé des lignes sur des cartes, oui. Et que les troupeaux se fichent pas mal des lignes sur les cartes, hein, parce que là ils vont où la pluie a voulu bien venir.
Bien sûr, et ils vivent dans le désert, ce sont des navigateurs du désert, et c'est vrai qu'on a créé ces nouveaux pays africains de ex nihilo, je veux dire en mettant, comme vous dites, des lignes sur des cartes, et pour eux ça n'a aucun sens, et d'un seul coup ils se sont retrouvés séparés les uns des autres, je dirais, et donc et puis spoliés aussi, parce qu'on a exploité le sous-sol, on leur a jamais donné leur part, c'est un peuple qui a beaucoup souffert.
Et qui souffre encore aujourd'hui.
On
l'a vu récemment avec les événements du Nord-Mali.
Bien sûr, oui. Et c'est un peuple qui a une culture extraordinaire, une culture extrêmement sophistiquée, extrêmement subtile, qui a une tradition orale et qui a une grande littérature qui est véhiculée uniquement dans une tradition orale, bien qu'ils aient des caractères, les caractères tifinards, donc qui permettent d'écrire, mais ils ont donc cette littérature est répercuté de génération en génération de manière orale. Il y a des joutes oratoires, des réunions poétiques quasiment journalières, en tout cas dans les années 60, l'époque que je décris dans le livre. Et ils vivent en permanence avec cette au-delà comme ça qui la présence des Kélésouf qui sont c'est extrêmement compliqué de décrire en quelques mots, mais ce sont à la fois les morts, les esprits, ceux qui ont vécu autrefois, enfin c'est et qui sont malfaisants mais qui peuvent attaquer les femmes quand elles voyagent, quand elles ne sont pas sous la tente. Donc, il y a toute une cosmologie en fonction de laquelle ils vivent. Et puis alors le voile qui est l'apanage des hommes, contrairement à tout le reste de l'Afrique, la femme touareg n'est pas voilée, c'est l'homme qui est voilé, c'est l'homme qui doit cacher son visage. Et la femme a une autonomie, c'est la femme d'abord qui transmet le pouvoir, c'est la femme qui a le pouvoir, elle peut divorcer.
Oui, dans le roman, on en voit une qui divorce,
et elle divorce, c'est elle qui décide, quand elle en a assez de vivre avec son mari, elle prend ses affaires, elle retourne dans son campement, et personne n'a rien à dire, elle est autonome. Et puis cette parole voilée, cette importance de la parole, c'est vrai que dans le désert, même dans le désert, quand on voyage à dos de chameau, la parole se fait rare. On a un mot prononcé, un mot lâché, c'est quelque chose d'important. Et la parole des Touaregs, elle est toute de retenue, elle est toute de réserve. Chaque mot a non seulement ce qu'il signifie, mais les résonances qui vont avec. Et on entend aussi les mots qui ne sont pas prononcés. Si on fait une invitation avec un mot qu'on attend et qui ne manque et qui ne vient pas, eh bien ça a un sens et l'autre comprend ce que ça veut dire. Donc c'est une culture très attachante, très très subtile, très riche. Et que j'ai découverte et qui m'a séduit à un point. Plus je suis entré dans cette culture, j'ai lu des textes, alors des textes en tamashek pour en avoir en transcription bien sûr, en tamashek pour en avoir la sonorité, et puis en traduction pour en avoir le sens. Et je suis vraiment j'ai pénétré un tout petit peu, parce que c'est évidemment une culture immense, mais j'ai pénétré un tout petit peu de cette culture, et vraiment ça a été pour moi un grand voyage.
Ouais. Et comme vous le dites à un moment dans le roman, on a toujours ramené ça à l'affaire, la cause ou le problème des Touaregs, mais on n'a jamais été plus loin. Quoi. On dit, il y a le problème des Touaregs, il faudra qu'on le règle un jour.
Oui, c'est
et
ça.
Et puis voilà, aujourd'hui
oui.
On reparlera encore du problème des Touaregs.
Oui, oui, c'est ça, le problème Touareg, comme il y a eu la question juive, la question Touareg.
On
réglera la question Touareg, mais on ne la règle jamais. Les Touaregs ont tenté beaucoup de fois des négociations, ils ont envoyé des plénipotentiaires, des délégués qu'on a fait attendre, qu'on n'a jamais considérés. Qu'on a même emprisonné quelquefois. Donc c'est vrai que cette question Touareg n'a jamais été réglée. Et puis c'est un peuple cultivé, c'est un peuple mais c'est aussi un peuple de guerriers. Et donc c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Ce sont des gens qui connaissent le désert, qui savent se battre. Et donc il faut en tenir compte, à la fois du point de vue humain et du point de vue politique.
Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui au Nord Mali.
Oui, oui. En même temps, quand j'ai écrit ce livre, je savais qu'un certain nombre de jeunes Touaregs avaient été utilisés comme mercenaires par Kadhafi, et que certains étaient tentés par une alliance avec Al-Qaïda, puisque finalement Al-Qaïda tentait de déstabiliser les gouvernements locaux, et les Touaregs étaient en lutte contre ces gouvernements. Donc ils avaient les mêmes ennemis. Et donc, quand on a les mêmes ennemis, eh bien, on a une tentation d'alliance. Et en même temps, plus j'ai étudié la culture et le mode de vie Touareg, plus je me disais, c'est impossible que les Touaregs s'allient avec ACMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique. Ça ne peut pas coller entre eux, et c'est effectivement ce qu'on voit aujourd'hui. C'est que les Touaregs ont stoppé leurs actions militaires contre les armées gouvernementales pour se retourner contre ACMI. Ça ne peut pas aller. La philosophie, la conception de l'existence est trop radicalement différente.
Notre amie Fanny a encore des questions, je pense.
Non, je voulais réagir à ce que vous disiez sur les Touaregs. C'est le même problème avec chaque peuple nomade. on a un problème avec, enfin, les peuples qui se déplacent, du moins, qui sont pas centrés dans un pays avec des frontières. Nous, on veut, on a une tendance à enraciner des peuples sur un territoire et donc à pas savoir gérer quand ce peuple se déplace.
Toutes les diasporas posent problème aux nations.
Voilà, c'est ça.
Que ça soit la diaspora arménienne, que ça soit la diaspora tzigane, que ça soit la diaspora juive, que ça soit la diaspora touareg. C'est vrai que toutes ces diasporas, tous ces peuples qui ne sont pas enracinés dans une terre, dans la terre de leurs ancêtres, et qui sont attachés, qui vont défendre le lieu où sont enterrés leurs pères, et qui transportent au contraire des valeurs culturelles, parce que c'est ça qui en fait leur ciment, ces peuples-là dérangent. Et le peuple touareg ne fait pas exception.
D'ailleurs, dans le roman, la seule amie que... qui n'est pas touareg, mais parmi les personnels de la base, la seule amie qu'elle se fait, c'est cette infirmière qui est, elle, d'origine arménienne.
Bien sûr, voilà, et c'est pas tout à fait par
hasard. C'est pas par hasard
que
ce lien se tisse et puis qu'elle représente cette diaspora qui est chez nous, quoi. Et ça, c'est important dans le roman. C'est un petit point, une petite pierre qui est posée.
Voilà,
une
petite pierre, oui.
Christine, toi, tu as une question.
Moi, je me posais la question de l'écriture, en fait. Comment elle vous parvient, en fait? Vous parliez de 18 mois de préparation.
Oui.
Et l'écriture intervient après
L'écriture intervient après. J'ai hésité longtemps parce que plus j'entrais dans ma documentation et plus je me disais mais c'est énorme. Comment est-ce que je n'osais pas plus écrire ce livre, parce que j'avais l'impression que j'allais forcément dire des bêtises, etc. Puis à un moment donné, je me suis dit, tant pis, il faut plonger, donc je vais entrer dans la phase d'écriture, et tout en continuant la documentation, au fil des pages, donc au fil de ce qui m'est nécessaire pour le développement de l'intrigue. Et puis, voilà. Alors, il faut dire aussi, qu'il y a un fil dans ce roman qu'on peut voir ou ne pas voir. J'en parle ici. Ce livre est une métaphore du livre de Ruth dans la Bible.
Ah, d'accord.
Donc, j'ai été ému en relisant ce chapitre, donc la Megillah de Ruth, donc de la Bible, de l'Ancien Testament. J'ai été ému par l'avertissement qu'il nous donne contre le communautarisme et contre les barrières qui peuvent s'ériger entre les peuples et entre les cultures. Et... Bon, pour faire court, je ne vais pas résumer le livre de Ruth ici, mais disons que Ruth est une Moabite, donc une Palestinienne, qui est accueillie au sein du peuple hébraïque, alors que il y a une règle la culture, une règle du judaïsme qui dit les Moabites ne doivent pas être convertis jusqu'à la 10e génération, et le texte ajoute, comme si ça ne suffisait pas, et jusqu'à la fin des temps, au cas où on n'aurait pas compris.
Donc on n'aurait pas compris.
Jusqu'à la 10e génération et jusqu'à la fin des temps. Et donc, et pourtant, Boaz, ou Boaz, donc ce Boaz du poème de Victor Hugo, lui, il épouse Ruth, cette Moabite, et elle devient rien moins que l'ancêtre du roi David, c'est-à-dire que cette étrangère est accueillie non pas sur le petit siège, sur le strapontin à côté, mais en plein centre, en plein cœur du peuple, puisque je dirais elle devient donc l'ancêtre des rois d'Israël. Hein, donc c'est vraiment le courant principal. Et donc ce livre, construit comme une sorte de commentaire sur le livre de Ruth.
Et Edith Taliat devient.
Voilà, et d'ailleurs, à un moment donné, le prénom hébraïque d'Edith. Alors c'est Ruth. Voilà, c'est Ruth. Bon, c'est un petit clin d'œil.
On le dit. On lui dit, tu sais, tu t'appelles Edith, mais en fait, ton prénom hébraïque, c'est Ruth. Alors il faut que tu épouses. Enfin voilà, etc.
C'est ça. Voilà.
Et puis, eh bien, elle devient comme Ruth. Allez, on va pas anticiper. Je vous propose encore un tout petit peu de musique là, parce qu'il est encore temps d'en faire, pour reprendre un peu notre souffle, revoir les questions qu'on a posées à Gérald Tenenbaum. Alors, j'ai toujours pas de Brahms, mais c'est quelqu'un que j'aime bien, c'est Monsieur Gouvy, Théodore Gouvy, qui est lorrain, et l'orchestre de Metz a enregistré une symphonie de Théodore Gouvy, et je trouve ça absolument magnifique de ressortir ce compositeur qu'on entend très peu. Voilà, Théodore Gouvy va continuer à jouer. Là, j'avais envie qu'aujourd'hui, voilà, on parle un peu de Théodore Gouvy, ce compositeur lorrain. Aujourd'hui, bah, nous recevons un écrivain lorrain, Gérald Tenenbaum, qui est venu pour ce superbe roman, L'Infinité des Traces, aux éditions Héloïse d'Ormesson, édition de qualité quand même. Hein, et les romans de Gérald sont des romans de qualité. Alors, il faut absolument lire L'Infinité des Traces. Je me mouille. C'est certainement le roman de cette période de l'année. Peut-être le roman de l'année d'ailleurs, mais dans mon cœur et pour moi, c'est vraiment le roman depuis le début de cette année. Enfin, je suis resté complètement ébahi, époustouflé sur le derrière. Je ne sais pas comment dire devant cette œuvre. Alors, si vous voulez vraiment connaître Gérald Tenenbaum, n'oubliez pas le souffle couplé. Là aussi, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. L'ordre des jours, le geste, tout ça, c'est aux éditions Héloïse d'Ormesson. On les trouve très facilement. Hein. Toutes les bonnes librairies de Nancy, ils ont tout ça. Et puis Gérald Tenenbaum, on le rencontre assez souvent parce qu'il donne des conférences, il présente son livre à différentes occasions. On n'a pas parlé, et c'est Christine qui en a dit deux mots là, il y a quelques minutes.
Oui, je disais que j'avais été vraiment soufflée par votre style, en fait, votre écriture. Enfin, les mots emportent, et c'est vraiment, on sent, comment dire, un grand style, une belle plume.
Je vous remercie. C'est vrai que je suis entré en littérature par la porte de la poésie. C'est la poésie qui m'a la découverte de Victor Hugo, La Légende des siècles, quand j'étais très, très jeune, un peu plus tard, Baudelaire, bon, et d'autres poètes, Saint-Jean-Perse, encore plus tard. Et c'est vrai que la poésie, la charge poétique est quelque chose qui me plaît particulièrement. J'aime aussi qu'un texte soit dense, qu'il ne se livre pas totalement à la première lecture, qu'on puisse le lire et le relire, et puis quand on le relit, je dirais à chaque fois, il vous apporte autre chose et il vous accompagne. Je me souviens de Jean Samuel qui a été déporté et qui racontait que à Auschwitz on ne pouvait rien lire sauf de la poésie. Et que la poésie, ou que, bon, que les gens bon, lisaient quand ils pouvaient se procurer des petits morceaux de texte ou qui se récitaient les uns aux autres, ça c'était quand les choses sont au pire, quand le monde est trop dur, la poésie est quelque chose qui vous soutient. Alors c'est vrai que je tente, livre après livre, roman après roman, de construire un travail qui est à la fois romanesque et poétique. Alors, c'est un peu une gageure, on est un petit peu entre deux chaises. C'est vrai que dans la littérature aujourd'hui, on peut dire que bon, vous avez des gens qui ont des grands styles et qui ont peu d'histoire, et des gens qui racontent des histoires, mais qui ne font pas particulièrement, qui ne prêtent pas une attention particulière au style. Moi, j'essaye de suivre ces deux voies à la fois, parce qu'en tant que lecteur, j'ai besoin des deux. J'ai besoin d'une histoire qui me captive, j'ai besoin de m'attacher aux personnages, j'ai besoin de les aimer, j'ai besoin d'avoir envie de les suivre. J'ai besoin que quand je quitte le livre le soir en m'endormant, j'ai envie de le retrouver le lendemain. Et en même temps, il me faut des phrases qui résonnent, des choses qui m'accompagnent. Donc c'est tout le travail que j'essaye de faire. Quand j'écris, je lis toujours à haute voix. Chaque texte, chaque phrase, je lis à haute voix parce que les sonorités sont extrêmement importantes. Faire de la littérature, c'est mettre du fond dans la forme. Donc je tente toujours que la forme, que les allitérations, les rimes intérieures. Je joue aussi avec les alexandrins. On en retrouve, d'une phrase à l'autre, on retrouve des alexandrins. Et il faut que toute cette forme concourt à l'idée qu'on veut induire dans l'imaginaire du lecteur.
Et c'est parfaitement réussi. Alors c'est un livre qu'il faut lire, il faut le lire. Et puis le poser, et puis il faut le relire, parce qu'on y découvre plein de choses à la deuxième lecture. Alors quand je le lirai pour une troisième fois, je suis sûr que je découvrirai encore plein de choses, parce que en plus il y a un vocabulaire riche, dense, avec des mots très précis, qui parfois sont des mots peu usités. Et il faut faire l'effort de comprendre le mot, voire même d'aller chercher quelque part dans un dictionnaire la signification de ce mot. Et ça c'est important.
Ça peut arriver, c'est vrai que la précision du vocabulaire pour moi est essentiel. Quelquefois, on voit des textes qui tournent autour d'une idée et qui vont vous mettre un, deux, trois paragraphes pour suggérer une idée, parce qu'en fait, le mot juste ou la succession de trois mots qui peuvent s'enchaîner n'a pas été trouvé. Donc, on délaye je suis persuadé qu'avec l'histoire qu'il y a dans ce livre-là, on aurait pu facilement écrire un livre de 600 pages.
Bien sûr.
Bon, celui-là fait 240 et parce que je trouve que bon, il faut aussi respecter le temps du lecteur. Il faut on donne ce qu'on a à donner, puis ensuite on se retire sur la pointe des pieds.
Gérald Tenenbaum, merci d'être venu passer cette heure avec nous. C'était comme la première fois que vous étiez venu, un enchantement. Merci pour ce magnifique roman, L'infinité des traces. Le prochain, il n'est pas
sur les rails pour l'instant. Je suis encore dans ce livre-là. Ouais. Je suis sorti très très épuisé de ce travail, et donc pour l'instant il n'y a pas de projet.
Alors Écoutez, chers amis, vous n'avez absolument aucune excuse de ne pas lire L'infinité des traces de Gérald Tenenbaum aux éditions Héloïse d'Ormesson. Merci Gérald Tenenbaum.
Merci à vous.
Bon retour.
Merci.
À bientôt, et on se croise de temps à autre. Merci à Lucas Chindamo qui était à la technique. J'en bafouille. Merci à mes chers amis chroniqueuses. Notre amie Fanny Latache et Christine Léninger. On se retrouve la semaine prochaine.
Volontiers.
Oui,
la semaine prochaine.
Alors, la semaine prochaine avec un nouvel écrivain lorrain. Au revoir. Au revoir, Gérald.
Au revoir.